janvier 2014, un dessinateur et deux scientifiques partaient pour une expédition au parc d'Odzala, en République du Congo. 8 mois d'immersion en forêt équatoriale sur les terrains de la recherche scientifique afin d'observer les interactions des gorilles dans leur milieu naturel. Découvrir par le regard du dessinateur le travail des scientifiques sur ce singe, tel est le pari de l'exposition des gorilles et des hommes, visible gratuitement au Diapason sur le campus de Beaulieu de février à avril 2016.
On est dans une sorte de cabane en bois et vous me disiez, monsieur Alexandre, que les planches étaient même trop propres. Parce qu'en fait, c'est censé restituer une sorte de mirador oui. que vous aviez installé au Congo pour observer les gorilles, c'est ça?
Oui, voilà. Trop propre, c'est les bottes qui
sont... Daniel Alexandre, dessinateur.
Non, il est assez proche de ce qu'il y avait parce que, heureusement, là-bas, il était traité contre les termites, par exemple. Donc, il avait intérêt à être propre. Les scientifiques occupent des postes d'observation comme ça sur des clairières qu'ils appellent des salines, puisque c'est des espaces ouverts où les sols sont riches en sel et où les conditions sont optimum pour observer les animaux, dans la mesure où c'est des espaces que les animaux aiment bien occuper, justement pour les sels minéraux, que ça soit dans leur alimentation, voire même manger un peu de terre ou des choses comme ça. Voilà.
Je continue la description de l'endroit. Alors il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a un sac de voyage, un kawel, il y a des jumelles, un appareil photo. Je vois également une longue vue. Et vous étiez là pendant combien de temps?
Quand on va sur le terrain, compte tenu de la lourdeur de la logistique et du temps de déplacement, en général, on n'y va pas moins d'un mois. Ce qu'il faut déjà une bonne dizaine de jours pour rejoindre les sites d'études. Donc c'est plus souvent 3 à 4 mois. Les affûts sont...
Nelly Ménard, chercheuse au CNRS, spécialiste en primatologie et en écologie.
Qui sont des clairières, c'est un site exceptionnel parce que les gorilles sont souvent difficilement observables dans la forêt. Et la particularité du parc national d'Odzala, c'est d'avoir des salines incluses dans la forêt qui sont assez petites, 2 hectares par exemple, ça peut aller jusqu'à 20 hectares, mais les gorilles séjournent pour s'alimenter dans ces clairières et on les voit d'assez près, en toute quiétude, à partir des miradors. Donc ce sont des conditions d'observation exceptionnelles qui nous permettent d'avoir accès à une connaissance des compositions de population qu'on ne pourrait pas avoir en forêt.
Vous venez d'Ecobio en forêt de Coimpon, et qu'est-ce que vous êtes venu chercher exactement chez nos amis les gorilles?
Bien sûr, il n'y a pas de gorilles en forêt de Coimpon. Donc on va là où ils sont, dans leur milieu naturel, c'est ça qui est aussi très important. Donc ça nécessite des suivis sur le long terme.
Pascaline Leguarche, maître de conférence à l'université Rennes 1, spécialiste en dynamique et en génétique des populations.
Là on s'intéresse au fonctionnement des populations. C'est une espèce qui vit très longtemps, qui a une structure sociale très intéressante, avec un mâle dominant, ses femelles, et beaucoup de dynamique, les individus vont changer de groupe, etc. Donc c'est intéressant, ils développent des relations sociales très intéressantes et très poussées, puisqu'ils vivent aussi très longtemps. Sur la partie génétique, les gorilles ont quand même 99% de leurs gènes en commun avec l'homme, donc on a une proximité importante qui éveille la curiosité, bien sûr, quand on est chercheur. Donc ce qu'on est allé chercher, c'est des conditions exceptionnelles pour répondre à des questions précises sur comment une espèce de ce type-là survit dans les conditions actuelles, puisqu'on a beaucoup de changements. Il y a de la déforestation, on travaille là particulièrement sur des nouvelles maladies qui arrivent dans ces populations, comment les populations réagissent et comment elles vont pouvoir persister dans ces nouvelles conditions. Donc on a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça et pour avoir nos réponses.
Est-ce qu'ils interagissaient également avec vous? Est-ce qu'il y avait un contact visuel qui s'opérait?
Je pense que les gorilles sont tout à fait, savent très bien que les chercheurs sont là, qu'ils sont suivis. Ensuite, les interactions sont toujours à distance. Hein, donc je pense que pour les regards, Daniel aura peut-être des choses à dire et Nelly aussi. Voilà, le mirador est aussi à 6 mètres de hauteur, hein, il n'est pas au sol. Après, il y a les odeurs aussi qui circulent. Même si les observateurs sont silencieux, il y a aussi toujours des petits bruits. Donc ils savent... qu'il y a des personnes qui viennent les observer, mais il n'y a aucun rapport d'agressivité ou de contact direct. Ouais. Alors les regards, je ne sais pas, tu en as peut-être eu, Daniel?
Du moins, on ne pourra pas restituer les odeurs en passage radio pour plus d'immersion. Et au moins, pour ce qui est du contact visuel
Non, mais il y a plusieurs fois, j'en ai discuté avec Céline Genton, qui était la chercheuse que j'ai accompagnée, suivie là-bas. Quand on voyait par exemple des éléphants, on les voyait dans des zones très particulières de la saline et généralement pas très proches de l'affût. Il y a de fortes chances pour qu'effectivement les éléphants, comme d'autres espèces, nous perçoivent, nous ressentent, peut-être pas de façon sûre et certaine, mais ça n'empêchait pas que certains groupes de gorilles s'approchaient très près de l'affût. Pour l'anecdote, le moment où on pouvait accidentellement rentrer en contact avec ces animaux, c'était sur le sentier qu'on faisait le matin et le soir, parce qu'on ne logeait pas dans l'affût. On avait un camp de base situé à une demi-heure ou à une heure des clairières. On logeait là, un camp de base perdu au milieu de la forêt. Tous les matins, on allait sur les clairières, dans l'affût, le soir, on revenait. Et comme c'est une forêt assez dense, c'est vrai que c'est sur ce transect-là que des fois, ça peut arriver qu'on croise des animaux, quoi. Céline me disait, écoute, elle me faisait des petits topos comme ça. Elle me disait, si c'est un éléphant, tu cherches pas à comprendre, tu cours. Et si c'est un gorille, il faut pas bouger. Même s'il charge, il faut pas bouger. Alors, ça m'est pas arrivé une fois de plus, mais je trouve que c'est facile à dire. Ceci dit, ce sont des animaux qui, moi, m'ont donné une... Pour les mâles adultes, par exemple, chez les gorilles, c'est des animaux qui m'ont donné une sensation de puissance tranquille, quoi. À chaque fois, je tombais en amour, là, de voir un gros pépère s'avancer, majestueux, tout ça. Mais bon, on sent bien qu'il faut pas le stresser, quoi. Parce qu'il a les arguments physiques pour faire quelques dégâts. Bon, là, ça fait un peu image d'épinal, mais les comportements violents comme ça, ça reste quand même anecdotique, hein. C'est des circonstances très particulières. Quand ils rencontrent d'autres mâles adultes pour des questions de dominance, de sexualité, de reproduction, etc., c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Donc ce genre de comportement était relativement réduit.
Ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, c'est de montrer justement l'évolution du comportement des scientifiques dans leur observation.
C'est-à-dire Mario de Lefeuvre, responsable du service culturel de Rennes 1.
Autrefois, les scientifiques avaient une interaction, là, au contraire, perturbante pour les animaux, puisque bien souvent, on les anesthésiait pour pouvoir faire des prélèvements sanguins et autres, alors que justement ce qui est intéressant, c'est de montrer cette évolution au travers de l'exposition, qui est on observe purement et simplement sans vouloir perturber aucunement les animaux, et on va chercher des éléments hors de leur présence qui sont les crottes qui vous permettent après de rechercher l'ADN en fait des gorilles, mais du coup sur des lieux qui sont souvent proches de leur nid qu'ils abandonnent chaque jour. Donc vous allez à un moment donné où on sait qu'ils ne reviendront pas le soir même à cet endroit précis. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans l'expo.
L'évolution des technologies, en particulier en biologie moléculaire, nous donne accès maintenant à des données génétiques avec ce qu'on appelle nous des échantillons non invasifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les capturer, de les endormir, faire des prélèvements de sang. On y a accès à partir des FSS, donc c'est un plus énorme pour répondre à vraiment un grand nombre de questions auxquelles on n'avait pas accès du tout, surtout sur une espèce comme ça. Sur d'autres espèces, je pense par exemple aux macaques, on pouvait se permettre de les endormir avec des seringues et des anesthésiques et les fusils adaptés, sans dommage, hein, et attendre qu'ils se réveillent et ils repartaient, on faisait les prises de sang. C'est très long, c'est très lourd, c'est très dur à faire et on a accès à peu d'individus. Chez le gorille, hein, c'est autre chose parce que si on capture un mâle adulte, hein, qui est leader d'un groupe, hein, ça perturbe énormément le groupe, et comme la cohésion au sein d'un groupe de gorilles se fait par les relations entre le mâle et les femelles n'étant pas apparentées dans le groupe, n'ont pas des liens très très forts, le mâle étant endormi, ça perturbe le groupe, les femelles risquent de disperser et le groupe d'éclater. Donc il y a des précautions à prendre, on ne peut pas faire ça sur des gorilles, sauf des gorilles solitaires, mais on a dans ce cas-là accès à beaucoup moins de données. Donc sans compter les risques pour l'animal, etc. Et comme disait Marie-Aude, effectivement, antérieurement, il y a longtemps, les premières études sur les primates, les grands singes, les chimpanzés par exemple, se faisaient après avoir commencé à alimenter les animaux pour les habituer à l'homme et pouvoir avoir accès comme ça à des observations sur les comportements qui étaient peut-être difficiles autrement. Maintenant, on sait qu'on peut, avec de la patience, habituer les animaux à la présence humaine. Ils finissent par nous oublier dans les groupes, donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi.
C'est sûr qu'on est vraiment dans un contexte de conservation maintenant, donc c'est des prises de conscience qui viennent depuis fin des années 90. Et maintenant, quand on travaille sur une espèce menacée, on peut effectivement plus permettre de faire n'importe quoi. Il faut avant tout penser à la préservation de l'espèce.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Ce qui m'a passionné, moi, enfin, elles s'en rendent peut-être pas compte parce qu'elles sont dans leur quotidien, etc. Mais là, elles viennent de parler de génétique, etc. Et c'est vrai que c'est des méthodes qui maintenant sont répandues dans la police scientifique, par exemple. Moi, je trouve assez magique de voir des gens comme ça s'investir avec des méthodes dont on parle assez peu. J'y trouve un petit côté intrigant, magique, etc. Moi, mon ambition, c'était d'essayer d'apporter peut-être une pierre à l'édifice juste pour qu'on parle d'eux, de montrer qu'il y a des choses passionnantes qui se font en labo, par exemple pour la génétique, mais aussi à l'autre bout du monde, dans des conditions... moi, ça m'a fait rêver. Ça fait peut-être pas rêver tout le monde d'avoir des moustiques et des araignées grosses comme la même, mais c'est des gens courageux, c'est vraiment des aventuriers, quoi. Voilà.
Parlez-nous de vos conditions de travail justement, parce qu'on peut évoquer aussi le côté déplaisant qui ne fait pas du tout rêver. Par exemple, quelle anecdote que vous n'avez pas envie de raconter, vous allez devoir raconter.
Ah là là, oui, il y a des moments très très désagréables. quand on est persécuté par les petites mouches qui s'installent au coin des yeux et qu'on n'a pas de moustiquaire de tête à ce moment-là, c'est très dur à vivre. Mais bon, ça fait partie des contraintes. Oui.
Il y a eu aussi des aventures avec l'eau, il me semble, non ? Des bottes perdues, puisque c'est très marécageux, donc c'est quand même aussi très humide comme milieu.
Alors chacun a eu sa petite obsession par rapport à des désagréments. Je me souviens que Céline me disait, au bout de 4 mois, ce que je veux, c'est manger un steak, de la salade. Donc ça aussi, c'est des contraintes. Hein. Ils partent 4 mois comme ça, donc on mange des conserves. Voilà, pendant 4 mois, du manioc, des choses qui se gardent, quoi, du riz, des pâtes. Après les petites bêtes, il y en a plusieurs des anecdotes, mais il y en a une que je retiens, c'est cette fameuse amblypige, là, qui est une grosse araignée pleine de piquants. Ils appelaient ça l'araignée scorpion sur place, pas la queue en pointe, mais ça ressemble à, pour les plus grosses, une petite assiette à dessert. J'aime bien l'obscurité et l'humidité, donc on avait un petit cabanon pour les toilettes. Je vous assure que quand vous êtes là-dedans pour aller aux toilettes et que d'un coup vous vous apercevez que vous avez ce machin à 20 cm qui est planqué, qui n'est pas dangereux, mais qui est moche comme un pou, ça fait un peu bizarre. Et le plus drôle, c'est qu'on s'habitue, et moi ce qui m'a fait beaucoup rire en fait, c'est qu'au bout d'un moment, en allant aux toilettes, je lève les yeux et je la vois pas. Et là, j'ai été très inquiet. Bon, mais c'est pas bien dangereux, en fait. C'est rigolo à raconter, mais c'est plus désagréable qu'autre chose, en fait.
Mis à part ça, vous avez quand même eu le temps, malgré tous ces désagréments, d'observer les comportements des gorilles. Est-ce que vous avez pu relever quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais été découvert auparavant par vos prédécesseurs ? Notamment dans le comportement, je pense, mâle dominant, fils.
Non, des comportements nouveaux de ce point de vue-là, non. Par contre, j'ai effectivement une anecdote. Un jour où une panthère était couchée en lisière de la forêt, et un mâle adolescent qu'on appelle les mâles ados noirs, donc déjà un animal assez corpulent qui est en fin de croissance, solitaire, mangeait sur la clairière et lui tournait le dos. À un moment, il s'est détourné et il a vu la panthère qui ne cherchait visiblement rien, qui était couchée en lisière, et il a chargé immédiatement. Dès qu'il a vu, la panthère est partie. Donc ça n'avait jamais été décrit encore. Donc la panthère peut probablement être prédateur d'animaux solitaires, en mauvais état peut-être, mais un adolescent est capable de charger une panthère. Donc ça, c'était assez intéressant de le savoir.
Comment vous essayez de percer le mystère ? Il y a des signes qui vous aident à savoir pourquoi l'animal a chargé ? Quelle corrélation il y a avec son comportement et son humeur ?
Je pense que c'était une réaction émotionnelle très vive. Et à mon avis, il ne s'est pas posé la question. Il a chargé tout de suite et la réaction a été immédiate. La panthère n'avait pas l'air non plus très très agressive. Elle était couchée. Dans d'autres circonstances, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il est capable de se défendre, en tout cas de charger. Et que la panthère n'a pas insisté. Et c'était un animal tout seul. On sait très peu de choses finalement sur les interactions, les relations entre ce type de prédateur et les gorilles. On connaît très peu l'impact. On sait que dans d'autres études, il a été observé des signes de morsure, par exemple sur des jeunes, mais jamais eu d'observation directe d'interaction. Et ça, c'est intéressant. Mais ce sont des circonstances très particulières. Il faut des heures et des heures d'observation pour avoir peut-être l'opportunité, ou jamais d'ailleurs, d'observer ça.
J'avais une petite question dans ce sens, moi, justement. Céline m'avait montré une vidéo sur la clairière où il y avait des gorilles et des chimpanzés sont arrivés. Alors c'est assez passionnant, je pense, pour les chercheurs de voir deux primates, deux espèces différentes, occuper le même milieu. Ils n'ont pas le même comportement, pas le même régime alimentaire. Le gorille est plutôt herbivore, frugivore. Insectivore, le chimpanzé, lui, n'hésite pas à chasser d'autres singes, par exemple. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir quand on sait que deux espèces comme celle-là fréquentent le même milieu ? Visiblement, il n'y avait pas d'interaction. Ils n'avaient pas l'air de faire si attention que ça au groupe de chimpanzés qui arrivait et vice-versa.
Parce qu'ils se côtoient dans la forêt également. ce qui est observé en forêt doit être à peu près de la même teneur que ce qui a été observé sur la saline. Ce qui est plutôt extraordinaire, c'est de voir les chimpanzés sur les clairières. Parce que c'est assez exceptionnel, ils s'aventurent rarement. Moi, je les ai vus une fois en clairière, en milieu ouvert. Alors que le gorille, il vient très souvent. Le chimpanzé, c'est extrêmement rare qu'il s'aventure à découvert.
Est-ce que vous avez pu observer quelque chose de particulier qui puisse être relevé, toujours dans le comportement? Là, je pense par exemple plus au comportement mâle dominant et femelle, parce que vous disiez tout à l'heure que les femelles, bah, étonnamment, n'avaient pas forcément leur place dans le groupe, n'étaient pas apparentées au groupe.
C'est une espèce chez laquelle les mâles et les femelles quittent le groupe natal. Donc elles grandissent et arrivées à l'âge subadulte ou presque adulte, elles vont quitter le groupe dans lequel elles sont nées. Elles vont rejoindre soit un mâle solitaire pour former un nouveau groupe, soit un groupe déjà formé avec qui a déjà un mâle leader. Et donc elles rejoignent des femelles qui ne sont pas parentes. Et de ce fait-là, les liens sociaux sont moins forts, je dirais, que pour d'autres espèces de primates, où les femelles restent toute leur vie dans leur groupe natal et forment donc ce qu'on appelle des matrilignes, avec des individus très très soudés entre eux.
Par rapport à ces relations, justement, il y a un film qui est présenté dans l'exposition, où là c'est quand même une donnée qui est assez rare, où on voit deux groupes qui sont sur une saline et on voit une femelle d'un groupe qui commence à s'intéresser à ce qui se passe dans l'autre groupe, donc qui s'éloigne de son mâle dominant avec son petit qui suit. Et on voit quelque chose de très intéressant d'une femelle qui va aller tester finalement l'autre mâle. Son mâle dominant va venir essayer de la récupérer. On voit aussi le rôle du petit qui est entre son papa et sa maman et qui ne sait pas trop. Oui. Il fait un peu des allers-retours. Ce film est vraiment très intéressant parce que souvent, ce qu'on a comme données, c'est on a une observation du groupe un jour, on voit telle femelle est avec par exemple le groupe d'Arthur, et puis 3 mois après on voit cette femelle finalement elle est avec le groupe de Sergio par exemple. Mais on ne sait pas trop comment ça s'est passé. C'est rare d'observer vraiment le moment où la femelle va aller voir les autres groupes. Donc là, on a quand même quelques données comme ça qui sont vraiment intéressantes. Donc les femelles ont leur rôle vraiment dans le choix de leur partenaire. Elles peuvent changer de groupe plusieurs fois. Là, on voit aussi que les petits peuvent aussi être un enjeu, qu'ils restent avec leur père ou avec leur mère. Donc il y a encore beaucoup de questions auxquelles on doit répondre, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de données et qu'elles ne sont pas encore toutes complètement analysées, donc on se focalise sur une question à la fois, mais on a des mines de données qui sont à exploiter. Et ça, c'est intéressant vraiment de voir ce film, j'invite tout le monde à aller le voir, parce que c'est très intéressant de voir cette hésitation et ces deux mâles qui vont se rencontrer. Et là, on voit justement que c'est plutôt de l'intimidation, il ne va jamais y avoir de bataille, mais le mâle va essayer d'intimider l'autre pour récupérer sa femelle, etc.
Les charges entre mâles sont spectaculaires, ils font beaucoup d'esbrouf quand même, avec l'eau en particulier. Ça arrive rarement au contact physique parce que ça reste des contacts qui sont à risque quand même. Donc c'est plus de l'intimidation que des contacts physiques. Contacts physiques, ils ont eu lieu souvent entre individus adolescents, par exemple, entre le jeu, je me mesure. C'est comme ça qu'ils prennent aussi la mesure de la force de l'autre. Mais en tant que leader de groupe, c'est rare qu'il y ait des contacts vraiment francs et dangereux.
Fin de la première partie de notre entretien avec les acteurs de l'exposition « Des gorilles et des hommes », une exposition visible gratuitement au diapason sur le campus de Beaulieu Rennes 1, de février à avril 2016, du lundi au samedi. Le Labo Matic, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes en différé sur le site radiocampusrennes.fr. A bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.